il est midi et demi.
RTL Midi. Le 12-30. Bénédicte Tassard.
Bonjour à tous, bienvenue dans RTL Midi. Voici les titres de ce lundi 25 février. La taxation des contrats courts, ça n'a pas marché. Alors, haro désormais sur les indemnités des salariés les mieux payés. Pour le gouvernement, la réforme de l'assurance chômage passe par des allocations moins généreuses pour les cadres. Première invitée de RTL Midi, la secrétaire générale adjointe de la CFDT, Marie-Lise Léon. Les douaniers sur tous les fronts, record de saisie de contrebande de cigarettes, mais aussi de cocaïne et d'armes à feu. Y aura-t-il des gilets jaunes aux européennes? 3% d'intention de vote seulement pour ces frondeurs, selon un premier sondage Harris Interactive Epoca pour RTL, TF1, Le Figaro et LCI. La République en marche en tête devant le Rassemblement National. Deuxième invité de RTL Midi, Benjamin Cauchy, le porte-parole des Gilets jaunes libres. L'agriculture prépare sa relève, vaste campagne de recrutement de jeunes agriculteurs. La météo, bonjour Peggy Broche.
Bonjour Bénédicte.
On parlera dès le début de ce journal des conséquences du beau temps sur notre santé. Vous le confirmez Peggy, ce sera encore une très belle après-midi sur tout le pays.
Exactement, plein soleil avec un beau ciel bleu, seul bémol, un vent encore sensible en Corse, jusqu'à 60 km/h en rafale sur la Balagne et jusqu'à 70 sur les Bouches de Bonifacio. Quant aux températures, elles sont printanières, comprises entre 15 et 19 degrés dans la moitié nord, 18 à 21 dans le sud-ouest et de 16 à 19 degrés dans le sud-est.
Merci Peggy, on vous retrouve à la fin de ce journal. La question du jour sur RTL.fr. Faut-il réduire les allocations chômage des cadres? Vous dites oui à 59%, non à 34%. Vos appels au 3210, vos réactions sur Facebook, Twitter. Bonjour Pascal Pro.
Bonjour Bénédicte.
Les auditeurs ont la parole dans une demi-heure.
Exactement. Faut-il baisser le plafond d'indemnité versé au cadre? C'est une autre manière de poser cette question. Autre question, l'impôt sur le revenu pour tous. Est-ce que vous y êtes favorable? Et puis on pourra également évoquer les gilets jaunes. Doivent-ils se présenter aux élections européennes? À tout à l'heure.
À tout à l'heure Pascal.
Au 3210, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
Il fait beau, très beau pour un mois de février, Peggy Broche vient de vous le dire. L'anticyclone est là depuis 2 semaines maintenant, mais cela a des conséquences. Et d'abord sur la pollution atmosphérique. Odile Pouget, bonjour.
Bonjour.
D'abord, plusieurs régions sont touchées depuis la semaine dernière par une alerte aux particules fines.
Oui, c'est notamment le cas en Île-de-France et dans des grandes villes comme Lyon ou Strasbourg. Touchées par cette pollution due à l'anticyclone persistant, il fait chaud pendant la journée, froid la nuit, ça forme un couvercle au-dessus de la ville et tout ce qu'on émet, chauffage au bois notamment et trafic routiers se retrouvent piégés. Alors aujourd'hui, il y a une petite amélioration partout. C'est dû notamment en Île-de-France aux mesures de réduction de la vitesse de 20 km/h sur les autoroutes et voies rapides. Mais dès demain, Air Paris annonce une remontée des concentrations. Et puis à noter aussi pour aujourd'hui une alerte aux particules fines dans le Var. Cette pollution, on le sait, augmente le taux de maladies cardiaques et pulmonaires.
Pas de jogging donc, hein ?
Non.
Est-ce que les allergies printanières sont en avance ?
Alors oui, c'est très net. D'habitude, l'arrivée des pollens coïncide avec le début du printemps, fin mars, début avril. On a donc un mois d'avance avec ces températures très élevées. Les concentrations, notamment de pollen de cyprès, explosent dans le sud autour de la Méditerranée, selon le RNSA, le réseau de surveillance aérobiologique. Les noisetiers et les aulnes sont bien en fleurs sur tout le pays, ce qui donne là aussi un niveau de concentration assez élevé dans le sud-ouest et le centre-est. On rappelle quand même les précautions à prendre au quotidien pour les personnes sensibles. Éviter les activités sportives en pleine journée dans les parcs, ne pas étendre son linge dehors car le pollen se fixe sur les fibres, se laver les cheveux tous les soirs et ne pas ranger ses habits portés dans la journée dans les placards mais les laver.
Les conseils d'Odile Pouget, notre spécialiste médecine sur RTL. Et il y a Peggy Broche qui éternue. Donc vous voyez, les allergies c'est jusqu'ici. Climat toujours, la terre est sèche en Corse, il y a de nouveaux départs de feu en Haute-Corse, notamment à Ghisoni, mais c'est surtout à Calenzana que les incendies se déchaînent. Déjà 1300 hectares de végétation ont été ravagés ce week-end. Le combat n'est pas encore gagné, selon Gérard Gavori, préfet de Haute-Corse.
Pour l'instant, on a 3 incendies. Le plus important, c'est toujours celui de Calenzana, où on a près de 1300 hectares qui ont été parcourus depuis maintenant 48 heures. Bon, la situation est stable. Les moyens aériens, donc, c'est-à-dire nous avons 2 Canadair et 2 Tracker qui sont actuellement à l'œuvre. Donc on espère pouvoir venir à bout de cet incendie avant ce soir, puisqu'on annonce une reprise des rafales assez fortes, de l'ordre de 100 km/h. J'ai pris un arrêté ce matin, interdisant tout emploi du feu jusqu'à demain dans la journée, compte tenu de cet épisode venteux annoncé.
Le préfet de Haute-Corse avec Mélina Fachin pour RTL. Une pause et dans un instant, les chômeurs les plus aisés, ça existe au régime sec.
RTL Midi, Bénédicte Tassard.
Les cadres dans le viseur du gouvernement pour la réforme de l'assurance chômage. Les négociations entre syndicats et patronat, vous le savez, ont échoué la semaine dernière. Alors l'exécutif reprend la main et réfléchit aux moyens d'économiser 1 milliard d'euros. Deux pistes qui concernent les salariés les mieux payés. Plafonner leurs allocations chômage actuellement limitées à 7700 euros par mois ou les rendre dégressives. À La République En Marche, on voit ces deux solutions d'un bon œil, à l'instar de Gilles Legendre.
Il est évident qu'aujourd'hui, les cadres supérieurs, les cadres dirigeants, connaissent un taux de chômage extrêmement modeste et que quand ils connaissent une période de chômage, elle est très brève et qu'aujourd'hui, ils sont indemnisés dans des proportions et à des niveaux qui sont supérieurs à tout ce qui est constaté dans tous les autres pays. Donc, cela fait partie d'un certain nombre de dysfonctionnements de l'assurance chômage. Il y en a d'autres auxquels nous avons envie et la nécessité de nous attaquer. Cela fait partie des pistes. Nous verrons où aboutira exactement cette proposition.
Gilles Legendre, président du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale, avec Elisabeth Martichou sur RTL ce matin. Alors, faut-il s'attaquer aux indemnités chômage des cadres ? Première invitée de RTL Midi, Marie-Lise Léon, la secrétaire générale adjointe de la CFDT. Bonjour.
Bonjour.
Cette question, elle revient régulièrement. Est-ce que vous êtes pour ou contre ce système de dégressivité pour les cadres ?
Pour la CFDT, la question de la dégressivité n'est pas une bonne idée, ni pour les cadres, ni pour les autres d'ailleurs, parce que ça n'a jamais été prouvé qu'il y avait une efficacité quelconque à diminuer l'indemnité chômage des chômeurs, des demandeurs d'emploi, puisque l'idée qui est sous-jacente, c'est que en diminuant les allocations, on les encourage à retourner au travail. Et notamment quand on est cadre et qu'on a des hauts revenus, ce sont des personnes qui, en général, ne vont pas au bout de leurs droits à l'assurance chômage, parce que l'enjeu, c'est bien de retrouver un emploi le plus rapidement possible.
Vous ne pensez pas que ces personnes pourraient accélérer leurs recherches si on instaurait des indemnités dégressives ?
Alors non, parce que quand on est cadre et que ça serait supposé qu'on y est par confort et qu'on prend du temps pour soi. Alors il y a peut-être une partie des demandeurs d'emploi qui sont dans cette situation, mais quand on est cadre, qu'on a des responsabilités et qu'on perd son emploi, l'idée première, c'est quand même bien de retrouver le plus rapidement un emploi. Moi, je connais pas de cadre qui aujourd'hui considère qu'avoir 8 mois, 10 mois, 12 mois ou 18 mois d'inactivité dans un CV, ça permette de retrouver rapidement un travail ou dans de bonnes conditions. Donc, alors, moi, je pense que c'est un mythe de penser que il y a ce type de comportement, ou en tout cas qui sont majoritaires parmi les personnes qui recherchent un emploi.
Alors, l'autre option évoquée ce matin, c'est la baisse du plafond des indemnités des cadres. Un plafond actuellement à 7700 euros par mois maximum. Quelle est votre position ?
Alors ça, c'est un niveau qui a été défini il y a un certain nombre d'années, qui a évolué puisqu'il a été diminué il y a quelques années. Aujourd'hui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'assurance chômage, c'est un régime assurantiel, c'est-à-dire que ce sont uniquement des gens qui ont travaillé qui en bénéficient et que ça assure un revenu de remplacement, c'est-à-dire que les personnes qui ont des très hauts revenus, moi ça me semble pas anormal qu'ils aient des allocations qui sont pas à 100% pour certains, mais qui se rapprochent quand même le plus.
Pour elles ont gagné ce droit. Elles ont gagné ce droit par leur travail.
Il y a un droit, voilà, un jour travaillé, un jour cotisé, un jour indemnisé. C'est quand même la base du régime d'assurance chômage.
Mais vous ne pensez pas que ça choque ? Alors c'est vrai, hein, ça fait des années qu'on entend une baisse du plafond des indemnités les plus élevées. Mais vous ne pensez pas que ça choque quand même la population qui se prononce un peu pour le, ça serait une mesure symbolique, politique.
Alors, ça serait une mesure symbolique, ça c'est charge après au gouvernement de faire passer ses messages politiques. Étant donné l'étiquette que le gouvernement a depuis un certain nombre de mois pour les plus favorisés, il pourrait utiliser cette mesure pour faire passer un message politique. Moi, ce qui me préoccupe, c'est les demandeurs d'emploi. Mmh. Et quand on a eu des hauts revenus, qu'on a travaillé, qu'on a acquis des droits et qu'on en bénéficie, ça ne me choque pas. Après, l'idée, c'est que les demandeurs d'emploi qui touchent ces hauts revenus, enfin, ou des allocations élevées, c'est qu'ils puissent être dans les conditions les meilleures pour retourner le plus rapidement à l'emploi.
Très bien.
L'idée, c'est d'avoir une période de transition dans laquelle ils ne sont pas en difficulté.
Merci Marie-Lise Léon, vous êtes secrétaire générale adjointe de la CFDT. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions dans RTL Midi. Le coup dur pour les 800 salariés de Fort Blanquefort, près de Bordeaux. Le constructeur automobile américain confirme la dernière offre de reprise est rejetée à la poubelle. Ford privilégie le plan social. Les syndicats sont attendus à Bercy à 17h. La traque des contrebandiers de cigarettes s'intensifie. Vous l'avez entendu ce matin sur RTL, le nombre des saisies sur le marché clandestin a bondi de plus de 15% sur un an. 241 tonnes de marchandises interceptées. Les douanes démantèlent des réseaux de plus en plus complexes, mais procèdent également à une multitude de micro-saisies. Gérald Darmanin, le ministre de l'Action et des Comptes publics, était ce matin au bureau de dédouanement postal à Chilly-Mazarin, en région parisienne. Il n'y a pas que sur les cigarettes que les douaniers mettent la main, Christophe Ponzio.
Effectivement, un tout type de tabac à rouler, cigares, tabac à narguilé, chicha, dont 75 tonnes ont été saisies l'an passé. Les stupéfiants ont aussi été ciblés, notamment cannabis et cocaïne. Leurs saisies ont bondi de 47% en un an. Et puis la douane a mis la main sur 1360 armes à feu, hausse de 42%. Des augmentations pas forcément synonymes de trafic supplémentaire, selon le ministre en charge des douanes, Gérald Darmanin.
Ça veut dire que les douanes sont de plus en plus performantes. Data naming, l'intelligence artificielle, mais aussi l'augmentation des effectifs. De même qu'une meilleure opérationnalité. Il y a eu un grand plan douane qui a été mis en place, l'organisation de l'administration, voilà, plus d'un an, montre leurs effets. Il faut continuer dans cette voie.
En revanche, les douanes ont saisi 35% de contrefaçons en moins l'an dernier, de faux articles de grandes marques de sport ou de sacs de luxe. Tendance identique en Europe, le ministre s'en justifie.
Alors soit il y a moins de contrefaçons sur le territoire européen, on peut le penser, soit nos armes ne sont pas toujours très bonnes. On peut considérer que la vente par Internet, par exemple, a révolutionné la contrefaçon de passage à la frontière. Je pense qu'il faut que l'on puisse travailler cette année avec les fabricants, voir comment on peut mieux réagir pour saisir de plus en plus de produits de contrefaçon.
Avec un enjeu de taille cette année pour les douanes, le Brexit et l'apparition d'une nouvelle frontière avec la Grande-Bretagne, 700 agents sont en cours de recrutement.
Christophe Ponzio pour RTL. Une information de l'étranger ce matin. On apprend que les forces démocratiques syriennes ont livré à l'Irak une vingtaine de djihadistes, dont 14 Français, des combattants de l'État islamique prisonniers désormais de l'armée irakienne. Au Mali, 15 djihadistes ont été mis hors de combat par une frappe française ce week-end. Une pause et dans un instant, 3% seulement d'intention de vote aux européennes pour les Gilets jaunes.
RTL Midi, Bénédicte Tassard.
Les Gilets jaunes aux européennes, ce n'est pas gagné selon notre baromètre Harris Interactive Epoca pour RTL, LCI, Le Figaro. Seuls 3% des Français interrogés souhaitent donner leur bulletin de vote à une liste Gilets jaunes. Invité de RTL Midi, le porte-parole des Gilets jaunes libres, Benjamin Cauchy, bonjour.
Bonjour Bénédicte Tassard.
Alors, il y a quelques semaines, la liste menée par Ingrid Levavasseur était créditée de 7,5% d'intention de vote. Le mouvement doit-il encore présenter une liste pour les européennes, vu ses intentions de vote aujourd'hui, 3% seulement?
Alors j'ai toujours été constant sur ce sujet. Pour moi, c'est une erreur majeure que de présenter une liste Gilets jaunes aux élections européennes. Ça fait plusieurs semaines que je le dis, pour la simple et bonne raison, c'est que ce mouvement social est fédérateur par ses revendications, mais en tout cas la transposition politique, quand on parle d'un suffrage européen, ne permettra pas aux gens d'extrême gauche, d'extrême droite, de droite et de gauche qui sont sur les ronds-points, de pouvoir se réunir autour d'un projet européen.
Et vous-même, Benjamin Cauchy, où est-ce que vous en êtes?
Écoutez,
est-ce que vous serez candidat à ces élections européennes?
Alors pour l'instant, je suis sur l'antenne d'RTL, et puis vous savez, le président de la République est le maître des horloges. Nous sommes à l'heure du grand débat national. Nous avons bien compris que les Français aspiraient à d'autres formes de mobilisation pour continuer nos revendications. Je vous rappelle que nous avons obtenu quand même la défiscalisation des heures supplémentaires. Je vous rappelle que nous avons quand même obtenu une prime d'activité pour près de 900 000 Français. Et que nous devons encore être vigilants, puisque nous souhaitons avancer sur la réindexation des retraites, allocations adultes handicapés, pensions d'invalidité. On a encore plein de combats à mener au titre des Gilets jaunes. Le moment politique n'est pas venu, Madame Tassard.
Et donc, ça sera à quel moment allez-vous vous décider ?
Eh bien, je me déciderai lorsque le président de la République pourra nous présenter sa copie. Si la copie est positive, eh bien, ça voudra dire que, eh bien, les Gilets jaunes ont réalisé une victoire politique sans précédent, ce que les hommes politiques n'ont pas réussi à faire depuis une vingtaine d'années. Donc ça, ça sera un premier point intéressant. Et si le président de la République, eh bien, se moque de nous, comme il l'a dit dans son courrier dès début janvier, eh bien, il sera effectivement temps de prendre ses responsabilités politiques. Mais pour l'instant, c'est l'heure du débat.
Alors, ces 3%, c'est quand même le signe que les Français doutent de la possibilité pour les Gilets jaunes d'agir, de faire bouger les lignes au sein du Parlement européen, quand même.
Bah, écoutez, moi, je vous invite à lire votre sondage d'une autre manière. J'ai bien cru comprendre que La République En Marche faisait 22%. Oui. Donc, j'ai surtout compris qu'il y avait 78% des suffrages qui allaient s'exprimer qui étaient contre la politique d'Emmanuel Macron. C'est bel et bien ça qu'il faut retenir. Et je peux vous assurer que les Gilets jaunes ont insufflé une dynamique et une envie d'autres politiques dans notre pays. Je pense que consciemment ou inconsciemment, le souverainisme, la souveraineté nationale est un enjeu majeur. Donc, rassurez-vous, 3% effectivement pour une liste Gilets jaunes, c'est pas grand-chose, mieux vaut rester à la maison. Mais je pense qu'il y a 78% des Français qui ont l'esprit Gilets jaunes et qui iront voter sur les listes en fonction de leurs convictions.
Et il y a aussi la liste du Rassemblement national qui progresse.
Oui, absolument.
20%. Oui. Vous n'avez pas peur que les Gilets jaunes votent pour le Rassemblement National en attendant que vous décidiez, vous ?
Bon, écoutez, les Français sont libres de leur opinion. Moi, ce que j'apprécie au sein de ce mouvement des Gilets jaunes, c'est le refus de la pensée unique. Et donc, je vous invite à en faire de même. La République En Marche n'est pas une fin en soi. Le Rassemblement National n'est pas une fin en soi. Et les gens se voteront librement, tout simplement.
Merci Benjamin.
Merci Cucci. À vous.
Vous êtes le porte-parole des Gilets jaunes libres. Merci d'avoir été l'invité de RTL Midi. Et rendez-vous donc dans quelques semaines pour votre décision. Contrairement à Emmanuel Macron, Édouard Philippe a décidé de se ménager au Salon de l'Agriculture. Le président a effectué sa visite d'une traite en 14 heures samedi. Le Premier ministre, lui, est passé très rapidement ce matin. Il réapparaîtra entre les fromages et les poules cet après-midi. On peut trouver du travail au Salon de l'Agriculture. Certains stands embauchent. Chaque année, le secteur propose 70 000 postes à pourvoir. Et contrairement aux idées reçues, Jacques Seret, ces postes sont souvent qualifiés et bien payés.
Oui, ces emplois sont affichés sur de petites affichettes le long des murs ou bien l'on peut aussi les consulter sur des bornes informatiques dans les allées du salon.
On a besoin d'emplois qualifiés, très qualifiés, des machinistes, des emplois beaucoup plus sur du technique.
Samuel Mas, vigneron dans le sud de la France, répond aux questions des curieux au stand AgriRecruit dédié aux étudiants et aux chercheurs d'emploi.
On a besoin de salariés agricoles qui vont travailler avec souvent des niveaux assez hauts, BTS et autres. Même ingénieurs pour des tracteurs et des outils de travail du sol pour adapter ces outils pour la transition écologique qui peuvent être utilisés sur nos exploitations.
70 000 postes à pourvoir, dont 10 000 en CDI. Mickaël Jacquemin est le président de l'ANEFA, association qui fait la promotion des emplois et des formations des métiers de l'agriculture.
On n'a pas à rougir sur les salaires. Aujourd'hui, les employeurs sont en capacité de payer et plutôt de bien payer les salariés. Quand on sort d'une école d'agriculture, c'est des salaires nettement plus considérable, où on peut facilement atteindre 1 800, 2 000 euros, et puis ensuite, vu que c'est des métiers en tension, c'est un travail de négociation entre un salarié et un employeur.
Mickaël Jacquemin qui propose ici précisément 4840 postes. Il organisera demain toute la journée un job dating sur le stand AgriRecruit.
Jacques Seret au Salon de l'Agriculture pour RTL. Cette bévue de la justice que RTL vous révélait ce matin dans l'affaire Benalla. Alexandre Benalla et son comparse Vincent Crasse se sont parlé pendant plus d'une heure dans un box du palais de justice de Paris le jour de leur placement en détention mardi dernier. Deux hommes qui ont pourtant interdiction de communiquer. Thomas Proutot, ce cafouillage n'est pas inhabituel au palais, mais là ça fait tâche.
Absolument, selon plusieurs magistrats que nous avons contactés ce matin, lorsque des comparses sont entendus le même jour chez un juge, quels que soient les faits reprochés, vol ou stup par exemple, il arrive qu'ils puissent communiquer dans les couloirs par exemple, en attendant de passer, voire parfois au dépôt lorsqu'ils sont placés dans des cellules voisines, et cela même lorsqu'ils ont en théorie l'interdiction de se voir. Évidemment, c'est évité au maximum, surtout dans les affaires sensibles, afin d'éviter toute concertation. Seulement, mardi dernier, au palais de justice de Paris, eh bien, ça n'a pas été le cas. Les policiers chargés de l'escorte d'Alexandre Benalla et de Vincent Crasse n'ont pas reçu les instructions adéquates. Et non seulement les deux hommes se sont croisés, mais ils ont été laissés libres, vous le disiez, dans la même pièce pendant plus d'une heure, sans interdiction de communiquer. Une affaire qui embarrasse le tribunal de grande instance de Paris, qui, à ce stade, se refuse à tout commentaire.
Thomas Proutot. du service police-justice de RTL. À Grenoble, soirée de violence dans le quartier Mistral. Hier soir, une centaine de jeunes particulièrement agressifs a pris pour cible les policiers et les pompiers avec des jets de projectiles. Après l'interpellation d'un suspect détenteur de drogue, deux jeunes ont été arrêtés pour violence. Mais quelle idée de braquer une station-service pendant les départs en vacances. Le voleur a été coincé dans les bouchons sur l'A61 à Toulouse. Patrick Tégéraud.
Oui, tout avait plutôt bien commencé pour ce braqueur expérimenté. Avec son arme dans une main et la caisse dans l'autre, il était sorti sans encombre de la supérette de l'aire d'autoroute. Il s'était alors engouffré dans sa superbe Maserati d'emprunt et faisant vrombir les six cylindres, il a filé sur l'autoroute en direction de Carcassonne. Mais ce week-end de chassé croisé, la circulation est très dense et il y a eu un violent accrochage qui paralyse la circulation et qui a déjà attiré les forces de l'ordre. Le peloton autoroutier de la gendarmerie est bien sûr en alerte et la rutilante et bruyante berline noire est vite repérée, roulant au pas. Les 300 et quelques chevaux de l'engin lui sont d'aucune utilité. Un motard s'approche, le malfaiteur menace les automobilistes alentour pour tenter de se frayer un passage, mais le gendarme ouvre la portière, parvient à menotter un poignet, il tente aussi d'arracher les clés, mais il est traîné sur quelques mètres. Un autre militaire lance une herse, les pneus sont crevés, la belle italienne est abandonnée, le braqueur laisse aussi son butin et il fuit en courant, il saute le grillage de l'autoroute, il se cache dans un bois où les gendarmes de la compagnie de Villefranche-de-Lauragais finiront par l'interpeller. Il est aujourd'hui en garde à vue, il devrait être présent au parquet demain après-midi. Le gendarme traîné sur plusieurs mètres a eu beaucoup de chance, lui. Il n'a été que légèrement blessé.
Le récit d'un braquage raté, signé Patrick Tégéraud, le correspondant RTL dans la région. Les minorités raflent les Oscars. Green Book, Oscar du meilleur film. Roma, meilleur réalisateur. L'histoire vraie d'un pianiste noir en tournée dans le sud ségrégationniste des USA et celle d'une nourrice d'origine amérindienne à Mexico. Deux destins qui ont touché la jet set hollywoodienne. Meilleur acteur Rémi Malek, Freddie Mercury à l'écran dans Bohemian Rhapsody et meilleure actrice Olivia Colman dans La Favorite. Et on retrouve Pascal Praud avec qui vous allez dialoguer au 32-10 dans quelques minutes. Vous avez écouté ce journal, Pascal. Qu'est-ce qui vous a frappé?
J'ai entendu avec intérêt Benjamin Cauchy. 78% des Français, selon lui, ont l'esprit gilet jaune. Et on va interroger précisément les auditeurs et ce sera une de nos questions. Est-ce que les gilets jaunes doivent se présenter coûte que coûte aux élections européennes? Autre question, l'impôt sur le revenu pour tous. Est-ce que vous y êtes favorable? Faut-il réduire les allocations chômage des cadres, c'est une question intéressante, même si les cadres sont peu touchés par les chômages. Aujourd'hui, les indemnités maximum sont à 7 700 euros. Est-ce qu'il faut baisser le plafond de ces indemnités? Et parlons également du temps qu'il fait. Et pourquoi pas, envoyez-nous des cartes postales si vous êtes au soleil, si vous êtes sur la plage, si vous profitez du bon temps, un peu de légèreté. Pourquoi pas, en
pourquoi
tout cas,
pas.
Entre 13h et 14h, on est ensemble.
Au 32-10, merci Pascal, à tout à l'heure. La météo Peggy Broche, l'anticyclone est toujours au-dessus de la France cet après-midi.
Et oui, cet anticyclone Bénédicte qui est centré sur l'Allemagne, du coup s'étend et étend toute son influence sur tout le pays. Donc on en profite, c'est pour notre plus grand plaisir, ça donne du grand ciel bleu, du beau soleil. Il y a juste un petit point quand même à noter, c'est qu'il y a encore du vent en Corse avec des rafales à 60 km/h sur la Balagne, 70 km/h sur les Bouches de Bonifacio et jusqu'à 90 voire 100 km/h prévu en soirée sur les reliefs. Les températures, elles sont encore largement au-dessus des moyennes de saison. On est parfois 8 à 10 degrés au-dessus. Quand ça même. Donne quoi? 16 à Nice, comme vous dites quand même. 16 à Nice et à Caen, ainsi qu'à Strasbourg et Lyon. 17 à Montpellier, Nantes et Paris. 18 degrés à Cannes, La Rochelle, Toulouse et Lille. 20 degrés à Bordeaux et jusqu'à 21 cet après-midi à Mont-de-Marsan et Tarbes.
Et demain, Peggy, les vacanciers vont encore en profiter.
Ah, ça, je vous le confirme, quel que soit l'endroit où vous vous trouverez. Lunettes de soleil oblige demain. Il y aura encore du beau soleil. Alors, quelques brumes matinale localement dans le Val-de-Loire, en Haute-Normandie, Champagne-Ardenne, Val-de-Saône et dans l'extrême sud-ouest, mais ça va très vite se dissiper dès les premiers rayons de soleil. Encore du grand bleu toute la journée sur tout le pays. Concernant le vent en Corse, il va faiblir demain, mais il y aura encore quelques rafales à 50 km/h sur les reliefs uniquement. Et quant aux températures, elles seront encore en hausse.
Encore ?
Digne d'un mois de mai, encore exactement. Ça ira de 16 à 24 degrés demain. 16 à Ajaccio, 17 à Brest, 18 à Tours, 19 à Paris et Lille, 20 à Marseille, 22 à Toulouse, 23 à Pau et jusqu'à 24 à Biarritz.
On file à Biarritz. Merci Peggy.
C'est parti.
Il est 13h.
Le Tout Info, des auditeurs ont la parole sur RTL.
Et c'est avec Agnès Bonfillon. Bonjour Agnès.
Bonjour Bénédicte, bonjour à tous. En Syrie, 14 Français accusés d'appartenir au groupe djihadiste État islamique ont été remis aux autorités irakiennes par les forces kurdes. Que vont-elles en faire? En tout cas, c'est du jamais vu, Brice du Génie.
Oui, c'est une première. Alors, on ne sait pas encore qui sont ces djihadistes. Les autorités irakiennes parlent de 14 personnes. La France ne confirme rien pour l'instant. Ce qui est très important dans ce transfert, c'est ce que cela veut dire pour le ou les procès à venir. Car la différence majeure entre l'Irak et le Kurdistan, où sont détenus les djihadistes français, c'est que l'Irak est un État avec des institutions judiciaires reconnu par la France, alors que le Kurdistan n'est pas un pays constitué au regard du droit international. Et donc, depuis des mois, la France est bien embarrassée avec ces djihadistes français détenus au Kurdistan. Que faut-il en faire? Où faut-il les juger? Là-bas ou les rapatrier en France? Ce transfert est donc opportun, car Paris l'a répété à plusieurs reprises. Les djihadistes prisonniers en Irak seront jugés par des cours irakiennes. Certaines femmes l'ont d'ailleurs déjà été par des cours irakiennes et condamnées à Bagdad. Alors la position de Paris peut changer, la France pourrait décider désormais de les rapatrier. Le dossier, en tout cas, c'est sûr, est au menu en ce moment même d'un déjeuner entre Emmanuel Macron et le président de la République irakienne à l'Élysée.
Information de Brice Dugénie du service étranger de RTL. Merci Brice. En Haute-Corse, les pompiers toujours à l'œuvre pour venir à bout de l'incendie de Calenzana. Les flammes ont déjà ravagé 1300 hectares depuis samedi et le feu n'est pas encore tout à fait maîtrisé. Octavien Meschini est chef du groupement des opérations joint par Mélina Fachin, il fait le point sur la situation.
L'enjeu et l'objectif est d'éviter que le feu ne rentre dans la forêt de Bonifato. Actuellement, donc, des moyens aériens, donc, des traqueurs et maintenant relayés par des canadaires travaillent sur ce chantier. Ils sont appuyés au sol par environ 130 personnels dans des conditions quand même difficiles puisqu'on a quand même du vent. Il faut savoir que la météo aujourd'hui, donc on va avoir un renforcement du vent particulièrement sur les zones montagneuses avec des rafales qui pourront souffler jusqu'à 80 km/h. Voilà, mais actuellement, donc, le chantier de Calenzana, pour l'instant, il est stabilisé. On travaille sur les lisières, donc le feu n'évolue plus.
Des propos recueillis par Mélina Fachin pour RTL. En Gironde, la fermeture de l'usine de Blanquefort semble inévitable. Ford confirme qu'il refuse la dernière offre de reprise par Punch Powerglide. Le constructeur automobile américain dit préférer un plan social pour les 850 salariés du site. La baisse de l'indemnisation des cadres. Le gouvernement étudie cette piste dans le cadre de la réforme de l'assurance chômage. Car selon Gilles Legendre, le chef de file des députés de La République En Marche, cela fait partie d'un certain nombre de dysfonctionnements en France. Il y en a bien d'autres, a-t-il ajouté ce matin sur RTL. Il faut d'ailleurs sortir du grand débat national avec une panoplie de mesures en matière de fiscalité en vue d'une remise à plat, dit-il. Les températures du moment bien supérieures au normal de saison. Le soleil, c'est du bleu quasiment partout en France, à la Baule, en Loire-Atlantique. On se croirait presque en été, comme l'expliquent les commerçants du bord de mer.
Le fait qu'il y ait du soleil, les gens sortent, ils viennent ici boire un verre, manger. Un samedi soir en hiver, on va faire 30 couverts peut-être. Hier, on a fait 60. Le fait qu'il y ait du soleil, c'est du simple au triple. On est tributaire du temps. S'il n'y a pas de soleil, il n'y a personne. Ce week-end était prévu beau, on a commandé beaucoup plus de moules par exemple, parce qu'on sait qu'on va vendre que ça.
Énormément de monde, les gens sont ravis parce que ça descend de Nantes, de Rennes. La saison s'annonce bien, on en profite, on est content.
C'est génial, c'est super, la terrasse elle est archi comblée. Il fait beau, on a du monde, il fait moins beau, on a moins de monde. Mais pourvu que ça dure.
Des propos recueillis par Mathieu Lopineau, évidemment. Évidemment, au soleil de Jennifer que vous aurez reconnu. Direction la Bourse de Paris avec Sylvie Aubert d'Investir les Échos. Bonjour Sylvie.
Bonjour Agnès.
Le marché parisien repart du bon pied.
Et oui, après un gain de 1,2% la semaine dernière, ça continue. Le beau temps, plus 0,3%, 5230 points. La Bourse Paris sur un succès dans les discussions commerciales sino-américaines. Je vous avais dit que je vous en reparlerai. Et oui, c'est un sujet clé pour les marchés en ce moment. Or, le week-end a été fructueux. Donald Trump a tweeté qu'il repoussait la date butoir du 1er mars. Alors normalement, à partir de cette date, des taxes douanières supplémentaires auraient dû être instaurées sur 200 milliards de dollars de marchandises chinoises importées aux États-Unis. Or, il semble qu'une amorce d'accord commence à émerger et les discussions vont donc se poursuivre au-delà du 1er mars et la bourse apprécie. Du côté des entreprises, Ipsen a annoncé vouloir acquérir une biotech canadienne pour 1 milliard de dollars. Mais vous savez, lorsqu'une acquisition intervient, la bourse se montre souvent méfiante et ça n'a pas loupé. Ipsen perd plus de 4,5%.
Sylvie Aubert d'Investir les Échos. Merci beaucoup Sylvie. Il est 13h05 sur RTL, au soleil de Jennifer. On ne s'en lasse pas, hein, Pascal Pro. Vous adorez cette chanson, paraît-il.
Au soleil, magnifique. Moi, j'aime le soleil, mais comme tout le monde.
Ouais, enfin, c'est pas la peine de danser. Asseyez-vous maintenant, soleil. Puisque les auditeurs ont la parole. C'est dans quelques instants.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.